Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Certaines héroïnes de la guerre de 14-18 nous sont bien connues. Marie Curie, qui créa les petites Curies, des ambulances équipées d'appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser les éclats d'obus. Sarah Bernhardt, amputée d'une jambe en mars 1915, elle alla sur le front encourager nos soldats, hissée sur une chaise, ce qui lui vaudra dans leur rang le surnom de Mère Lachaise. Marie Marvin, dite Marie Cascou, à la fois pilote et infirmière, qui reçut la Croix de guerre 14-18 et la Légion d'honneur. Citons enfin l'infirmière anglaise Edith Cavell, première martyre de la guerre de 14, fusillée par les Allemands le 11 octobre 1915 pour avoir permis à des centaines de soldats alliés de fuir la Belgique pour la Hollande, pays neutre. Mais Bertha von Suttner, Nicole Girard-Mangin, Suzanne Noël, Émilienne Moreau, Charlotte Malter, femmes pourtant admirables, n'ont pas connu la même postérité. C'est donc à elles que j'ai souhaité rendre hommage dans ce nouvel épisode en deux parties. 1903. Selon la presse européenne, la femme la plus célèbre du moment se nomme Bertha von Suttner. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Bertha est pourtant la toute première femme à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Comment a-t-elle pu passer aux oubliettes de l'histoire ? Bon, en même temps, cette amnésie devrait-elle surprendre quand on sait que seuls 4% des Nobel décernés depuis la création du prix ont été attribués à des femmes, ce qui représente 54 femmes pour 866 hommes. Pour son engagement pacifiste, c'est elle qui a inventé le terme, Bertha von Suttner mériterait pourtant d'être tirée d'un oubli d'autant plus injuste qu'elle-même aurait joué un rôle déterminant dans la création du prix Nobel. Bertha Felicitas Comtesse Kinsky von Schinikuntetto naît à Prague le 8 juin 1843 dans une famille de l'aristocratie viennoise. Son père meurt avant sa naissance, laissant une belle fortune à son épouse, de sorte que Bertha bénéficie d'une éducation soignée, voyage beaucoup et apprend plusieurs langues, ce qui lui sera un jour très précieux pour porter la bonne parole dans le monde. Hélas, sa mère est une flambeuse qui dilapide au jeu la fortune dont elle a hérité. Ne pouvant plus espérer un sou vaillant de sa famille, Bertha doit travailler pour vivre et devient gouvernante chez les von Suttner, une famille moins titrée que la sienne, mais bien plus fortunée. Elle enseigne aux deux filles les langues et la musique. La suite est classique. Elle tombe amoureuse de l'un des fils von Suttner, Arthur, de 7 ans plus jeune qu'elle. Dès que la romance est découverte, les parents d'Arthur la renvoient. Sur leur conseil, elle répond à une annonce passée dans le journal début 1876 par un certain Alfred Nobel.
Monsieur plus très jeune, très riche et très instruit, vivant à Paris, cherche dame, même âge, parlant plusieurs langues, qui lui servirait de secrétaire et dirigerait son intérieur.
Bertha, 33 ans, quitte donc Vienne pour Paris où elle devient la secrétaire particulière et claire d'Alfred Nobel qui lui a 43 ans. Elle ne sera guère plus de 2 semaines à son service, mais qui lui suffiront à convaincre l'inventeur de la dynamite, pacifiste convaincu, de mettre sa fortune au service d'une organisation humaniste qui deviendra le prix Nobel. À Vienne, le fils von Suttner la rappelle. Il s'obstine contre l'avis de ses parents à vouloir épouser cette femme plus âgée que lui et sans dot, de sorte qu'il est instantanément déshérité. Les jeunes mariés quittent l'Autriche, s'installent en Géorgie où ils resteront 9 ans, vivant chichement de traductions, de l'écriture de romans et d'articles de presse. C'est dans ces années d'exil en Géorgie que Bertha commence à se passionner pour la thématique de la guerre et de la paix, notamment parce que depuis la Géorgie, les Suttner sont aux premières loges pour découvrir ce qu'est la guerre. Il y a la guerre russo-turque entre 1868 et 1894. Arthur publie de nombreux articles à ce sujet dans la presse allemande. Mais la fin du 19e, c'est aussi la guerre austro-prussienne avec Sadova et la guerre franco-prussienne. Idéaliste, Bertha est convaincue que les hommes peuvent s'entendre et renoncer à se battre. Elle se met à écrire sous le pseudonyme Doulette, O-U-L-E-T, De retour en Autriche après une réconciliation générale avec les Suttner, elle devient une fervente militante pacifiste. Elle s'attelle à l'écriture d'un livre intitulé « Die Waffen nieder », ce qui en français signifie « bas les armes ». Cet essai antimilitariste publié en 1889 évoque la guerre du point de vue d'une femme.
Dans son livre, l'auteur montre de manière très réaliste les horreurs de la guerre, vues dans la perspective inédite de l'héroïne à la recherche de son mari blessé sur le champ de bataille, témoin au féminin, brisant ainsi le tabou de la guerre, chasse gardée des hommes. Par-delà le domaine de la guerre abordé par une plume féminine, l'ouvrage offre une analyse lucide de la société autrichienne, à la fois gagnée dans ses plus hautes sphères par une militarisation triomphante et figée dans ses structures nobiliaires ancestrales.
C'est un succès foudroyant. L'ouvrage est vendu à 2 millions d'exemplaires et traduit en 12 langues, ce qui pour l'époque est proprement incroyable. « Bas les armes » est véritablement le best-seller de la fin du 19e siècle. Léon Tolstoï, l'un des premiers lecteurs du roman, compare l'ouvrage à la case de l'oncle Tom. Il écrit
« L'abolition de l'esclavage a été précédée par le fameux livre de Madame Bischofstove, « Dieu veuille que l'abolition de la guerre le fût par le vôtre ».
Sur sa lancée, Bertha crée une société pacifiste autrichienne et bientôt, portée par le succès de son livre, elle est la vedette du 3e congrès international de la paix qui se tient à Rome en 1891. Elle y prononce son premier discours public dans un italien parfait, appelant de ses voeux le désarmement, le règlement des litiges entre pays par le droit et pour ce faire la création d'une union internationale de la paix dont elle va d'emblée devenir vice-présidente, position absolument remarquable quand on sait à quel point les femmes sont alors exclues de toute forme de responsabilité politique. Dans les milieux pacifistes, on la nomme Friedensbertha. Quand ceux qui la contestent la traitent d'hystérique et la qualifient de Friedensfury. Furie de la paix, en somme. Nobel et Jaurès, avec qui elle correspond, ont de l'admiration pour elle. Elle leur fait part de son rêve d'une Europe pacifique qu'elle nomme Pan-Europa. Son influence et son militantisme l'amèneront jusqu'aux États-Unis, où en 1904, elle sera reçue par le président Theodore Roosevelt et l'année suivante, le 10 décembre 1905, elle devient la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix. Disparue 9 ans plus tard, à l'âge de 71 ans, le 21 juin 1914, elle ne verra par chance ni la Grande Guerre, ni l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. En 1910, soit 4 ans avant sa mort, elle avait prédit dans un roman une guerre mondiale apocalyptique. « Nous avons en main un potentiel dont nous n'avons pas encore idée », écrivait-elle alors. Ses propos visionnaires lui ont valu de la part de son compatriote Stefan Zweig le surnom de Cassandre de notre temps. Car l'avenir allait lui donner cruellement raison. Fin juillet 1914, dans l'Europe entière, le slogan du moment n'est plus « Bas les armes, die Waffen nieder », mais plutôt « Aux armes citoyens ». La guerre, c'est aussi des blessés par centaines, par milliers, qu'il faut prendre en charge et soigner. Durant le conflit, il y eut d'innombrables infirmières professionnelles et d'infirmières volontaires, bien sûr. Mais je veux évoquer en particulier, côté français, deux femmes médecins admirables. À commencer par Nicole Girard-Mangin, seule et unique française envoyée au front durant la Grande Guerre. Nicole doit sa mobilisation à un malentendu. Sans doute quelque obscur gratte-papier du ministère des Armées chargé de recenser les médecins a-t-il cru avoir affaire au docteur Gérard Mangin. Quoi qu'il en soit, Nicole Girard Mangin est mobilisée sur le front. Elle aurait pu protester, rester tranquillement à l'hôpital Beaujon où elle est alors une spécialiste reconnue de la tuberculose. Au lieu de cela, par patriotisme, mais aussi sans doute par défi, cette féministe divorcée de 36 ans, mère d'un fils en bas âge, se présente à l'hôpital de Bourbonne-les-Bains dans les Vosges, qu'elle est chargée de transformer en hôpital militaire. Le médecin capitaine qui la reçoit en tombe de sa chaise. Qu'est-ce que c'est que cette blondinette qu'on lui envoie pour organiser l'hôpital ? Oh, et puis, après tout, pourquoi pas ? L'armée ne manque-t-elle pas cruellement de médecins ? Alors à la guerre comme à la guerre. Après Bourbonne-les-Bains, Nicole est envoyée s'occuper des malades de la typhoïde dans une ville que l'on croit alors à l'abri des bombes, Verdun. Comme elle est la première femme médecin sur le front, il n'existe aucun uniforme pour sa fonction. On doit donc en inventer un à son intention. Alors pour ce faire, on copie à la va-vite celui des femmes médecins britanniques, auquel on ajoute une casquette d'officier français. Nicole portera donc durant toute la guerre un uniforme inventé exclusivement pour elle. En février 1916, elle passe l'épreuve du feu. Elle évacue sous les obus les blessés dont elle a la charge. Bientôt, elle entreprend de parcourir les lignes au volant d'une camionnette sanitaire pour récupérer des blessés auxquels elle prodigue les premiers soins, opérant elle-même ceux qui ne peuvent attendre. Ce petit bout de femme, d'une indomptable énergie à faire marcher tout un régiment, devient une héroïne. Tout le monde sait qui elle est. N'est-elle pas accompagnée en permanence de son chien, Don ? Dans la Somme, le Pas-de-Calais, Ypres, Nicole écume les hôpitaux militaires. En 1917, on la charge de créer une école d'infirmières. Ce sera l'école Edith Cavell, précisément le nom de l'infirmière anglaise déjà citée, fusillée par les Allemands. L'école Edith Cavell est installée rue des Nouettes à Paris. Nicole en devient directrice avec le grade de médecin-capitaine. Il est fort probable que peu d'années, que dis-je peu de mois après notre victoire, j'aurai un sourire amusé pour mon accoutrement singulier. Une pensée critique pour l'affection que je porte à Dunn, ma chienne. Ce sera du reste injuste et ridicule. Je dois à ma casquette d'avoir gardé une coiffure correcte, même en dormant sur des brancards, d'avoir tenu des heures sur un siège étroit sans gêner le conducteur. Je dois à mes multiples poches d'avoir toujours possédé les objets de première nécessité, un couteau, un gobelet, un peigne, de la ficelle, un briquet, une lampe électrique, du sucre et du chocolat. Je dois à ma chienne, née et élevée là-bas, bien des minutes d'oubli. Son attachement désintéressé m'a été doux. Enfin, je dois à mes caducées et mes brisques le prestige qu'il m'a fallu parfois auprès des ignorants et des sots. À la fin de la guerre, Nicole se met à la disposition de la Croix-Rouge internationale pour faire des conférences sur le rôle des femmes pendant le conflit. Elle milite au sein de l'Union des femmes françaises et participe à la création de la Ligue nationale contre le cancer. Hélas, elle meurt prématurément le 6 juin 1919 à l'âge de 41 ans. Près de son corps sans vie, on trouve des boîtes de médicaments. Ayant appris qu'elle souffrait d'un cancer incurable, Nicole se serait donné la mort pour éviter la déchéance physique et la souffrance. Près d'elle, fidèle, sa chienne Dunn. Au fait, Dunn, drôle de nom pour un chien. Sauf quand on sait que Dunn, c'était pour Verdun. Une contemporaine de Nicole, Suzanne Noël, est également médecin, mais dans une spécialité médicale qui va connaître des bouleversements majeurs à la faveur de la Grande Guerre. Elle fera partie de ces médecins qui vont tenter de redonner figure humaine aux gueules cassées, comme on les appelle, ou les baveux. Sans la permission d'Henri Perta, son premier mari, dermatologue de 8 ans son aîné, qu'elle a épousé le 10 janvier 1897 à l'âge de 19 ans, jamais Suzanne Gros n'aurait pu faire médecine. À l'époque, toute femme mariée souhaitant fréquenter l'université doit en effet avoir l'autorisation écrite de son mari, une disposition qui ne prendra fin qu'en 1938. Suzanne doit donc à son époux d'avoir pu passer son bac en 1903 et d'avoir pu faire à Paris les études de médecine dont elle avait toujours rêvé. À l'époque, les femmes médecins sont encore très rares. C'est en 1875, soit 3 ans tout juste avant la naissance de Suzanne, qu'une femme passe pour la première fois une thèse en médecine. Suzanne, elle, fait ses débuts à l'hôpital Saint-Louis, où elle recoud des oreilles décollées et fait disparaître des tatouages dans le service de deux pionniers d'une médecine esthétique encore balbutiante, les docteurs Brock et Morestin. Un jour, elle reçoit pour patiente une jeune laborantine défigurée par l'acide sulfurique. Réparer sa chair en lambeaux, redonner un visage à cette jeune femme, l'exalte, la bouleverse et la convainc surtout de se spécialiser en chirurgie maxillofaciale, ce qui, elle l'ignore encore, fera d'elle la première femme chirurgien esthétique de l'histoire de la médecine. Vient la guerre de 14, effroyable, avec son cortège de blessés de la face. Elle va constituer un champ d'expérimentation majeur et faire progresser la chirurgie réparatrice en 4 ans, comme elle ne l'avait pas fait en un siècle. Les chirurgiens sont confrontés à des blessures d'une gravité inédite, des visages ravagés qu'il faut littéralement raccommoder, rapiécer. Suzanne rejoint le docteur Morestin à l'hôpital des armées du Val-de-Grâce, où les gueules cassées sont isolées des autres blessés de guerre pour ne pas démoraliser ces derniers. Elle y fait l'apprentissage, sur le tas, des techniques lourdes de chirurgie réparatrice, notamment des nouvelles techniques de greffe utilisées pour remplacer l'os de la mâchoire souvent déchiquetée. Le 11 novembre 1918, elle aura l'immense joie de fêter l'armistice le jour même de son 40e anniversaire. Elle est née, en effet, un 11 novembre 1878. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré aux héroïnes oubliées de la guerre de 14.